Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour Blaise, bonjour Gaëlle. Gaëlle, c'est un petit peu grâce à vous qu'a lieu, à quelque part, cette entrevue-là, parce que l'expo liée à Schlagatable, je l'ai manqué. C'était 3 jours, là, à la fin du mois de novembre, et j'étais déçue, et j'avais envie qu'on se donne l'opportunité d'en rediscuter, même si l'expo, elle s'est terminée. Mais il est quand même important de souligner que ce projet-là, Schlagatable, a une suite. Ce n'était que le premier volet, cette exposition-là.
Effectivement. Puis elle vit en ligne aussi. On a, au cours des consultations, donc on a fait des ateliers avec 48 jeunes de Schlagamaisonneuve au cours de l'année passée, quelques mois. Et les données, les réflexions qui ressortaient de ces ateliers-là, on les mettait en ligne automatiquement. L'exposition était comme un recueil, en fait, de toutes ces réflexions-là, qui étaient plutôt visuelles, effectivement, mais dont on retrouve la grande majorité des traces sur le site.
Oui. Donc, et c'est comme ça que moi, j'ai pu en entendre parler, parce que je pense que ça crée de vives réactions chez les gens qui s'intéressent à l'alimentation. Et bon... Cette expo-là démontrait ou montrait des photographies que les jeunes avaient prises pendant leur réflexion, aussi des cartographies. Qu'est-ce qu'il y avait aussi également qu'on pouvait observer?
Bien, en fait, on faisait un parcours avec eux sur 8 heures en petits groupes où on allait explorer leur lieu d'achat, où on analysait qu'est-ce qui était le plus important dans un lieu d'achat. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est la proximité? Est-ce que c'est le service? Et on explorait ensuite le plaisir qu'on a de manger, le plaisir qu'on a de cuisiner envers les aliments. On parlait de ce qu'on cuisinait, les habitudes qu'on avait, des trucs culinaires. Donc, entre eux, les jeunes, en tout cas pas trop jeunes parce qu'ils ont quand même 18 à 30,
ans,
les jeunes adultes, échangeaient des trucs, échangeaient aussi des lieux dans le quartier qui pouvaient profiter à tous. Et pour clore toute cette réflexion-là, on venait à réfléchir à comment améliorer effectivement l'environnement alimentaire. Environnement alimentaire pouvant être bon, des choses mobiles, des choses fixes, une épicerie, mais
à
aussi
des
restaurants, effectivement.
Parlant d'environnement alimentaire, Blaise Rémillard, vous, vous les connaissez, ces environnements-là, parce que vous tentez justement d'en faire des lieux plus favorables. Tout à l'heure, je parlais de cette étude lancée par la Direction de santé publique de Montréal. Est-ce que c'est ça, un désert alimentaire, là, quand il n'y a pas de marché qui offre des fruits, des légumes frais à moins de 500 mètres?
Oui, oui, tout à fait. Donc, la définition plus générale, c'est un lieu où il y a une mauvaise accessibilité aux aliments. Là, les scientifiques ont établi que dans un rayon de 500 mètres, donc 5-10 minutes de marche pour quelqu'un qui a une mobilité normale, ben, c'est un rayon d'approvisionnement à pied. Et puis, ensuite de ça, ben, on rajoute le facteur pauvreté aussi. Donc, dans les déserts alimentaires, il y a tout le temps un facteur de pauvreté parce qu'on présume que les gens qui sont plus nantis vont avoir les moyens de se déplacer, mais pas nécessairement les gens qui n'ont pas de voiture ou qui ont de la misère à prendre les transports en public, par exemple.
Oui, oui, on peut penser aux personnes âgées, notamment.
Oui, ou les personnes faibles salariées ou sur l'aide sociale. Les tarifs de transport en commun, c'est un gros obstacle. Donc, à ce moment-là, on regarde le désert alimentaire comme tout le lieu où c'est compliqué pour une variété de personnes de bien s'alimenter.
Est-ce que les déserts alimentaires existent qu'en milieu urbain?
Je ne suis pas certain que l'appellation désert alimentaire n'est pas réservée à des études de planification urbaine, mais c'est évident qu'on voit des villages partout au Québec, en région où la petite épicerie du village ferme, et puis les gens qui n'ont pas de voiture ou les gens qui ont toutes sortes d'entraves à la mobilité, ben là, se retrouvent vraiment mal prises.
C'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'on peut se retrouver dans le milieu de champs agricoles et pourtant faire 20 minutes de route pour atteindre une épicerie qui serait décente avec une diversité de produits alimentaires.
Oui, tout à fait. Tous les deux, bon, Blaise, vous travaillez dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Oui. Le titre, votre titre le dit bien. Gaëlle, le projet Hochelaga-Table, ben, la bande, c'était ce quartier-là
oui,
également.
Oui, c'est centré vraiment sur ce quartier.
Mais ça aurait pu être d'autres quartiers à Montréal, notamment les déserts alimentaires, c'est pas juste dans Hochelaga-Maisonneuve, là.
Non, définitivement. Puis il y a la Direction de la santé publique subventionne une quinzaine de projets comme le mien qui ont pour but de mettre en place des solutions concrètes là, dans des quartiers de Montréal. Donc, il y en a à La Chine, il y en a dans Mercier, enfin, il y en a un peu partout sur l'île de Montréal. Et puis, il y aurait place même à faire de plus nombreux projets là, pour explorer des solutions.
J'imagine que, encore là, ben, c'est toujours l'impact financier. Là. C'est ce qui manque, c'est les ressources là, financières.
Oui, définitivement. Puis on est dans une phase un peu expérimentale où on constate qu'il y a des lacunes, que le marché répond pas aux besoins de tous et puis favorise pas la santé de tous. Et puis on essaie de trouver des alternatives à ça. Et donc, présentement, les projets qu'on mène, c'est vraiment des expériences à voir qu'est-ce qui est le plus porteur, qu'est-ce qui améliore le plus, qu'est-ce qui est pérennisable surtout. Parce que ce qu'on vise, c'est vraiment à transformer à long terme là, nos environnements alimentaires.
Et ce qui est concret, et ce qu'il y a de bien, Gaëlle Janvier, avec Hochelaga-Table, il me semble, c'est que c'était très concret. Ça allait vraiment créer un dialogue direct avec ces jeunes qui sont âgés entre 18 et 30 ans dans ce quartier-là, Hochelaga-Maisonneuve, et de les amener à s'intéresser à leurs habitudes alimentaires. Mm-hmm.
Oui, c'est sûr que, bon, pourquoi les 18 à 30 ans, pourquoi le quartier Hochelaga-Maisonneuve? Premièrement, vu l'initiative de la DSP d'Hochelaga-Maisonneuve qui est portée par Blaise, bon, c'était déjà un point de départ. On savait que ces réflexions-là pouvaient être prises par un projet concret. Aussi, bien, l'idée, c'était effectivement d'intéresser des jeunes qui viennent d'acquérir leur autonomie alimentaire, puis de se poser, puis de peut-être poser une petite graine de réflexion dans la tête, de dire comment moi je vais m'alimenter pour le restant de mes jours, en fait, et d'y réfléchir avec d'autres. Puis ce qu'on voit, c'est que peu importe le. C'est que je ne dirais pas qu'il y a une corrélation directe, puis là, c'est pas scientifique comme évaluation, mais il n'y a pas une corrélation directe entre la somme que la personne a entre les mains, mais bien son intérêt, ses relations qu'il a eues au cours de sa vie, l'éducation qu'il a eue.
La créativité aussi.
Effectivement, puis tu vois qu'il y a des jeunes qui semblent avoir eu quand même beaucoup de difficultés, mais bon, un colloque qui leur apprend toutes sortes de choses, puis ils ont une curiosité. Donc, dès qu'il y a un intérêt à ce moment-là, on peut apprendre énormément
par soi-même.
Donc, c'est ce qu'on a remarqué, puis ce qu'on voulait surtout faire avec ça, effectivement, c'est donner un visage aux mangeurs.
Oui, oui, oui.
Parce qu'on réfléchit à l'alimentation. Bon, on parle beaucoup du mangeur qui ne mange pas bien, mais ensuite, que le mangeur lui-même dise, mais qu'est-ce qui m'entoure? Qu'est-ce qui fait en sorte que je mange de cette façon-là? On y réfléchit très peu. Puis je pense qu'on est justement rendu à un moment où on se dit qu'il y a une possibilité de rendre des environnements plus sains, plus favorables pour améliorer nos habitudes, en fait.
Pas nécessairement une corrélation, vous disiez, entre l'argent qu'on a dans les poches et la façon de s'alimenter, mais j'imagine, Blaise, et je m'adresse à vous, une corrélation entre désert alimentaire et santé des résidents. Mais bien sûr, vous me corrigez si je me trompe, mais j'imagine que ça a un impact sur la santé des gens qui habitent des quartiers où il y a présence de désert alimentaire.
Oh, définitivement. Puis ce que votre invité plus tard va vous dire, c'est particulièrement chez les hommes.
Mm-hmm.
Donc, effectivement, c'est plus c'est compliqué d'avoir des habitudes de vie saines, eh bien, moins on est en bonne santé. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais il y a eu des recherches qui ont été menées aux États-Unis où on voyait dans certaines populations des augmentations de 30% de consommation de fruits et légumes lorsque on était plus près d'une épicerie, par exemple.
Mm-hmm.
Et encore là, il y a lieu de se demander quel genre d'approvisionnement on a. Récemment, on a vu des liens entre proximité d'une grande surface et obésité. Donc, si le marché près de chez nous vend les 2 litres de Pepsi en paquet de 12, et puis qu'on va s'approvisionner, on achète 24 litres de Pepsi à la fois, bien, on a plus de chances d'être obèse par la suite. Ça devient des évidences, mais on n'est pas porté encore, je pense, d'avoir la citoyenneté active au niveau de l'alimentation. C'est ce qu'il y avait d'intéressant dans Schlagatable, c'est que vraiment, on allait chercher des gens qui sont pas sollicités normalement pour ces enjeux-là, puis on leur demandait, mais comment vous planifiez votre santé, comment vous planifiez votre plaisir de manger de votre quartier, puis parce que c'est une dimension super importante de la vie, puis de notre qualité de vie
aussi,
de notre quartier, donc de se pencher là-dessus, puis de se dire, bon, mais comment on veut qu'il soit notre quartier, puis l'alimentation, c'en est un facteur très, très important.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça. On regarde ça de toutes les facettes pour finalement arriver à améliorer la santé des gens, mais aussi toutes sortes d'autres facettes de leur vie.
On parle de magasins grande surface. Gaëlle, est-ce que lors de vos discussions avec ces jeunes-là, les participants de Schlagatable, le fait d'avoir des restaurants où on sert de la malbouffe, ça avait un impact sur leurs intérêts alimentaires?
Je pourrais peut-être répondre plus à la question qu'est-ce que eux, au bout du compte, voyaient comme étant favorable ou voulaient accueillir dans leur quartier. Puis effectivement, les grandes surfaces, c'était un intérêt. Il y en a plusieurs qui se déplaçaient jusqu'à un autre quartier, un autre arrondissement pour aller dans des grandes surfaces ou des marchés ou pour avoir accès à une épicerie particulière là, qui est peut-être plus multiculturelle qu'on le retrouve actuellement. Il y en avait énormément, c'est ça, beaucoup de Costco, de Super C Mobile, des PA, tu sais, des épiceries qui sont peu chères et proches. Mais ce qui m'a beaucoup intéressée dans tout ça, c'est l'idée aussi d'avoir des meilleurs services, des restaurants qui étaient, oui, plus proches, mais où il y avait une bonne ambiance. Mm-hmm. Puis ça, c'est ce qu'on réfléchit. Ça, c'est à quoi on réfléchit très peu. Tu sais, OK, oui, mais il y a une banque alimentaire. Puis c'est étonnant parce que c'est quand même des jeunes qui étaient en difficulté, qui sont dans des auberges jeunesse. On se dit, bon, ils ont peu d'argent, donc ils vont utiliser les services de dépannage alimentaire. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, c'est pas tant.
Parce que c'est peut-être pas une atmosphère qui leur plaît.
Ben oui, il y a peut-être. Ben, puis c'est là où on essayait de creuser, puis j'ai pas les données ici avec moi, mais effectivement, ben s'il y avait comme un désintérêt qui est un peu inexplicable la majorité du temps, c'est comme, ouais, je sais que ça existe, je suis allée une fois, j'ai plus vraiment envie d'y retourner. Mm-hmm. Donc là aussi, on réfléchit à comment on pourrait rendre ces lieux-là plus accueillants pour une plus grande diversité de gens dans le besoin.
Mais peut-être aussi qu'on n'a pas envie d'y aller parce qu'on ne veut pas être marginalisé. En allant dans une banque alimentaire, ben on a l'impression peut-être de faire partie d'une population plus exclue ou plus vulnérable. Il y a peut-être ce regard-là aussi qu'on a envie d'éviter.
Oui, puis il faut aussi admettre qu'on est dans cette situation-là aussi pour y aller. Donc, c'est pour des jeunes, c'est peut-être moins probable. Mais il y en avait un qui était très bien. Il y avait trois femmes qui disaient qu'ils voulaient un Ricardo pour personne démunie à la maison. Donc, un Ricardo livré à domicile pour apprendre des petites recettes de cuisine. Il y avait des choses assez, assez intrigantes. Donc, les projets sont proposés en ligne avec des petits dessins, avec vraiment des détails de chaque projet.
Et bien sûr, ces projets-là mènent à rêver et à amener éventuellement des projets ou des solutions plus concrètes.
Ouais.
C'est quoi les façons que vous avez peut-être en tête, Blaise, pour justement amener des solutions pour peut-être amoindrir l'impact des déserts alimentaires pour qu'il y en ait moins sur l'île de Montréal?
Oui, ben présentement, on est à évaluer. On a mené une enquête cet automne sur les besoins et les habitudes des gens dans les secteurs des aires alimentaires de Hochelaga-Maisonneuve. Et là, présentement, on est à étudier ces résultats-là pour déterminer. Donc, il y a quelques familles. Il n'y en a pas des... On réinvente pas la roue. Là, on parle d'épiceries qui sont communautaires d'une façon ou d'une autre. Des fois, ça va être des coops ou des OBNL d'alimentation. On peut parler aussi de marché public, comme comme on pense au marché de solidarité Frontenac. On peut penser à des programmes d'épicerie itinérante ou mobile, mm-hmm. comme il y a le Fruixi ouais. qui roule dans Centre-Sud. Ouais. À Saint-Léonard, c'est un autobus épicerie. Et donc, il y a toutes sortes de façons de mettre ça en place. Maintenant aussi, il faut étudier un peu donc les besoins, les aspirations des gens du milieu, puis aussi les opportunités. Donc, nous, il y a certains, mm-hmm. certains organismes qui offrent déjà des services de cuisine collective. Il y a le Resto Pop qui offre des repas pas chers. Donc, de voir aussi comment on peut faciliter les déplacements, peut-être, pour que ces services-là se rendent aux gens. Donc, c'est tout ça qu'on étudie et puis on a la beauté et l'embarras du choix là-dedans. Et puis, on le fait avec les citoyens puis les organismes. Donc, au mois de mars, on va avoir des activités de diffusion des résultats de nos différentes études. Et puis, au mois d'avril, on devrait faire des assemblées de quartier. Mm-hmm. Donc, autant les organisations que les citoyens qui se sentent concernés par ça pour arriver à choisir une solution à mettre en mm-hmm. place.
Vous le faites avec les organismes, les citoyens. Est-ce que les élus sont concernés ou du moins sensibilisés à ça?
Absolument. On a une bonne oreille très attentive des élus, surtout au niveau municipal, mais aussi au niveau aux autres paliers. Mais comme c'est un service de proximité, ouais. ça concerne peut-être plus directement le municipal. Mais donc oui, on a une super collaboration des élus. Tout le monde voit le problème de santé déjà dans Hochelaga-Maisonneuve. Mm-hmm. Il y a une espérance de vie qui est 6 ans en bas de la moyenne montréalaise, qui peut être de plus de 10 ans comparé à d'autres quartiers. Alors, ça, c'est majeur. Et donc là, l'alimentation, bien, c'est une façon de prévenir
et c'est
de
parlant diminuer. Comme chiffre, ça. C'est extrêmement révélateur.
Oh, oui, absolument. Ouais. C'est tout à fait révélateur.
Gaëlle, en terminant, Hochelaga-Table, cette exposition dont on parle mm-hmm. depuis tantôt, c'était le premier volet du mm-hmm. projet, mais il y aura une suite. On va peut-être sur votre site pour en savoir davantage.
Oui, bien, vous pouvez déjà voir les projets, puis aussi les photos, etc. sur le site, mais le but étant de recueillir et analyser ces informations-là pour faire valoir la voix ou les réflexions des jeunes, aux élus justement et aussi aux intervenants, donc transmettre les informations pertinentes aux gens concernés. Et aux élus, ce qu'on aimerait proposer, c'est une charte alimentaire jeunesse mm-hmm, du quartier. Mm-hmm. Donc, au moins des principes importants à respecter dans ce qui est justement ce qu'on pourrait appeler la planification alimentaire de ce quartier-là, Hochelaga-Maisonneuve.
Bon, on suivra ça de près. Blaise Rémillard, coordonnateur pour le projet de solutions des aires alimentaires de la table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, et Gaëlle Janvier, urbaniste chargée de projet en agriculture urbaine et systèmes alimentaires locaux chez Alternative. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci. Merci.